Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le cholestérol fait partie de notre organisme. Les lipides composent nos cellules et servent à fabriquer hormones et vitamines. Mais lorsqu'il est présent en excès, ce même cholestérol devient dangereux et de substances utiles à nocives, il passe donc. Et c'est vrai pour les artères et notamment qui dit qualité des artères dit conséquence sur la santé cardiovasculaire. Alors si l'on a souvent entendu parler du cholestérol, notamment dans les messages publicitaires, on ne sait pas forcément par quel processus sa présence en excès peut menacer à terme notre santé. Nous allons donc parler aujourd'hui du contrôle du cholestérol, quelles analyses, dans quelles circonstances? Est-ce que chez certaines personnes, un bilan est d'autant plus recommandé? Une surveillance, on l'a compris, qui se révèle indispensable. L'occasion aussi de rappeler ce processus de formation, cette fois de l'athérosclérose. On parlera des risques, bien sûr, de la prévention, alimentation, changement d'habitude. Y a-t-il des produits à privilégier, d'autres à éviter? Quelles sont les activités physiques, là encore, à privilégier? On va aborder également la question des traitements et vous pouvez poser vos questions au 33 84 22 75 75 et pourtant je vous assure, c'est bien écrit sur ma feuille et les questions c'est aussi sur la page Facebook de l'émission. Mesure du cholestérol, quels sont les risques d'un excès? À quelle prise en charge faut-il penser? Autant de questions abordées dans le livre Alto Cholestérol, 100 questions-réponses pour tout savoir sur le cholestérol et protéger votre santé, publié aux éditions Marabout. Un livre que vous avez signé, professeur Philippe Gosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de cardiologie hypertension artérielle de l'hôpital Saint-André à Bordeaux. On va retrouver également tout à l'heure en ligne du Cameroun le docteur Jérôme Boumbi, cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé. Et puis on parlera aussi de ce projet. Où en est le projet d'Agence africaine de médicaments? Nouveau dispositif pour mieux lutter contre les médicaments falsifiés. On fera le point en fin d'émission avec le docteur Alfred Sandouidi, président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Et je l'ai découvert en lisant votre livre, professeur Gosse, beaucoup d'idées fausses autour du cholestérol, avec sans détour une première expression utilisée très fréquemment et qui d'emblée doit être rectifiée, c'est tout simplement « j'ai du cholestérol », puisqu'en fait, hein, professeur, du cholestérol, eh bien, tout le monde en a, et heureusement.
Absolument, on en a besoin. C'est un produit absolument indispensable pour fabriquer nos cellules, pour fabriquer des hormones. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Donc on a forcément tous du cholestérol.
Ce cholestérol, est-ce qu'il existe de manière physique? Il est présent où et comment dans le corps?
Alors, il intervient dans la structure de nos cellules, pratiquement de toutes nos cellules. Il y a un peu de cholestérol lié à d'autres éléments. Il est aussi dans certaines hormones, il est aussi dans la vitamine D, bref, il est un peu partout. Le seul problème, c'est que le cholestérol, c'est une graisse. Et comme c'est une graisse, elle n'est pas dissoute dans le sang, il faut la transporter. Et en fait, c'est plutôt la façon dont le cholestérol est transporté dans notre sang, c'est plutôt les véhicules qui le transportent d'un organe à l'autre, en particulier au niveau du foie où il est fabriqué et puis il s'est transmis à toutes les cellules. C'est la façon dont il est transporté qui pose problème. Il y a plusieurs types de transporteurs. On appelle ça des lipoprotéines. Et il y en a qui sont de toute petite taille, tout petits, qu'on appelle les LDL. Et puis des plus gros, qu'on appelle les HDL. Et les LDL, c'est ce qui permet au foie d'envoyer du cholestérol là où il y en a besoin. Et le HDL, c'est plutôt pour récupérer les excès. Et quand on a trop de LDL, donc ces petites structures qui transportent le cholestérol vers la périphérie, eh bien, le danger, c'est que ces petites structures peuvent rentrer dans la paroi des artères et s'y déposer. Elles sont pas faites pour y être, en fait. Et quand elles s'y déposent, elles font des petits dépôts qui grossissent au fil du temps sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est là où ça peut commencer à poser problème au niveau de nos artères.
Et forcément, on cherche les causes de ce cholestérol. Est-ce que trop de cholestérol, professeur Gosse, c'est forcément lié à une alimentation déséquilibrée? D'où cette question, est-ce qu'on est égaux, hein, oui ou non, face au risque d'excès de cholestérol?
Alors, on n'est pas égaux. Il est certain que c'est l'alimentation qui joue un rôle important pour expliquer qu'on ait beaucoup de problèmes de cholestérol actuellement. Le métabolisme, l'organisation de la gestion de notre cholestérol, elle a été organisée, fixée il y a très longtemps chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui avaient mangé très très peu de viande, mangé beaucoup de fruits et de légumes, avaient beaucoup d'exercices. Or, on a changé de mode de vie. Pour moi, le cholestérol, comme l'hypertension, comme le diabète, ce sont ce qu'on appelle des maladies de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a changé complètement notre profil de vie par rapport à nos lointains ancêtres. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a trop de cholestérol, c'est effectivement souvent que notre alimentation est trop riche en graisses d'origine animale, puisque ce sont les graisses d'origine animale qui apportent le cholestérol. Alors qu'il n'y a pratiquement pas ou très peu de cholestérol dans les graisses végétales. Mais on n'est pas tous égaux. On a des gènes qu'on a hérités de nos parents et certains nous rendent plus sensibles finalement aux excès de cholestérol que d'autres. Donc on n'est pas égaux non plus. Donc il y a une part alimentaire sur laquelle on peut jouer. Il y a une part génétique. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment en tout cas.
Une vulnérabilité plus importante. Et quand vous entendez parler, professeur, de bon et de mauvais cholestérol, comment est-ce que vous réagissez ?
Alors, si vous voulez, c'est passé dans les mœurs de parler du bon et du mauvais. Une fois de plus, le cholestérol en lui-même est bon, indispensable. C'est plutôt la façon dont il est véhiculé dans le sang qui peut aboutir justement à des conséquences néfastes quand il y a trop de ce LDL cholestérol, qu'on appelle souvent le mauvais cholestérol. Mais une fois de plus, voilà, le cholestérol en lui-même est bon. C'est la manière dont il est transporté dans nos artères, par le sang, bien sûr. Qui fait qu'il peut se déposer ou pas dans la paroi de nos artères.
Et qui va être déterminant. À présent, une question d'une auditrice du Congo.
RFI à Brazzaville. 93.2 FM.
Nicole, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicole, vous souhaitiez avoir des éclaircissements sur l'excès de cholestérol parce que dans votre entourage proche, il y a quelqu'un qui est directement concerné, c'est ça ?
Oui.
Et cette personne, elle a du mal à avoir des informations sur le cholestérol ?
C'est plutôt des informations sur le régime.
Sur l'alimentation, sur les changements qu'il faut opérer pour éviter l'excès de cholestérol. Est-ce que cette personne, elle a déjà entendu des informations, on va dire, contradictoires de la part de médecins, par exemple ?
Oui, c'est justement ça le problème.
Qu'est-ce qu'on lui a dit au juste ?
Bon, par exemple, on lui a dit que le miel, que le miel était contre-indiqué. Et après, c'est un autre médecin qui lui dit que le miel est plutôt bon parce que le premier lui a conseillé les sucres diététiques à la place des miels. Le second dit que les sucres diététiques sont trop riches en éléments chimiques. Quoi. Je ne sais pas comment il avait intitulé ça.
Il vous a parlé du miel, mais cette personne que vous connaissez, elle a d'autres problèmes de santé, par exemple de l'hypertension ou du diabète ?
Non, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas de diabète.
Donc, et pour vérifier ces informations, est-ce que cette personne est allée, comme on a un petit peu le réflexe de le faire communément, aller surfer sur Internet, chercher des informations sur certains sites pour en savoir plus sur le cholestérol ?
Oui, elle est allée, par exemple, chercher des informations sur les vertus de la bière.
De la bière.
Parce que le médecin lui avait dit que la bière était contre-indiquée. Et quand elle va sur Internet, on dit que la bière fait baisser le cholestérol. Alors du coup, elle ne sait plus quelle information retenir.
Elle a lu donc que la bière faisait baisser le cholestérol.
Voilà.
C'était peut-être le site des brasseurs du Congo, alors. Et le vin rouge aussi. Donc là, ça devait être un site de... Alors, je vais me tourner vers le spécialiste, hein, parce que bien sûr, on va poser toutes ces questions, on va vérifier avec le professeur Philippe Goss, c'est très important. Parce que du coup, vous avez conseillé à cette personne, elle a changé des choses en termes d'alimentation ? Elle s'est en quelque sorte pliée à ses conseils ?
Oui, elle a changé un peu. Par exemple, les graisses, elle évite les viandes, elle mange moins de viande maintenant, plus de poisson et de légumes, de fruits.
Oui.
Elle utilise les huiles végétales comme l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de soja. Elle évite maintenant l'huile d'arachide et l'huile de palme. Quand ça, on... par exemple, elle a retenu. Ouais. Maintenant, pour le vin rouge, il y a un médecin qui lui a dit que le vin rouge était très bon pour le cœur, que c'était un antioxydant.
Ouais.
Mais... il fallait qu'elle pouvait prendre un verre de vin rouge à table par jour. Ouais. Mais le verre, c'est un verre de quelle quantité? Et est-ce que c'est tous les jours qu'elle peut prendre ça?
On va poser la question, mais en même temps, c'est pas parce que quelque chose est indiqué pour le cœur que c'est forcément indiqué pour le cholestérol. Il n'y a peut-être pas forcément de lien entre les deux. Professeur Philippe Gosse, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nicole qui est en quête d'informations pour quelqu'un de sa famille? On va reprendre depuis le début, si vous le voulez bien, professeur, parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, moi, j'ai un petit peu du mal à faire le lien entre le miel et le cholestérol.
J'ai un peu de mal aussi. Ah. Je pense que le miel ne sera vraiment aucun effet négatif sur le cholestérol, mais aucun effet positif non plus. Moi, je trouve que le miel, c'est quelque chose d'un produit naturel avec pas mal d'avantages. Mais malheureusement, enfin, sur le cholestérol, ça ne devrait pas faire grand-chose, ni dans un sens, ni dans un autre.
Alors, d'autres informations. Là, deux alcools en question, censés être plutôt indiqués ou contre-indiqués, la bière ou le vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je disais tout à l'heure à Nicole, c'est pas parce qu'on parle de santé du cœur qu'on est directement sur notre sujet du jour, le cholestérol.
Alors oui, parce que ça peut agir par d'autres mécanismes. Si vous voulez, il faut être très très prudent sur les alcools en général. L'alcool n'est pas vraiment bon pour notre santé. Alors quand on en fait un usage modéré, et si possible pas tous les jours non plus parce que ça favorise la dépendance, ça, c'est tout à fait acceptable.
En tout cas, on va dire, il n'y a pas un conseil, ou en tout cas du vin sur ordonnance, ça n'existe pas.
Sûrement pas.
Nicole, qu'est-ce que vous en pensez de cette appréciation du professeur Gosse, dire peut-être qu'on parle de santé du cœur, mais pas directement, en tout cas avec le miel, il n'est pas contre-indiqué pour le cholestérol. Et puis quant au vin, avec énormément de modération, et en tout cas, ce n'est sûrement pas un médicament.
D'accord, je vais lui en parler.
Ouais. Et je pense que ces conseils seront vraiment bons pour sa santé, parce que c'est vrai que des fois, il y a un peu des campagnes, pas forcément d'ailleurs auprès des médecins, mais même dans la presse ou sur Internet, en disant tel aliment est bon. Il faut y aller vraiment avec prudence et écouter vraiment les conseils des médecins, comme vient de le faire le professeur Gosse. On vous remercie beaucoup, Nicole, pour cet appel. Lutter contre le cholestérol en excès. Des auditeurs posent des questions. Dans votre livre, vous parlez, professeur, du tueur silencieux. Une expression qui vient en partie répondre à la question de Steve, qui est en Australie à Brisbane, et qui demande quels sont les symptômes de l'excès de cholestérol?
Eh bien, effectivement, il n'y en a pas. Lorsque l'on commence à avoir des symptômes, c'est-à-dire que lorsque les artères deviennent encrassées, se bouchent, etc., c'est déjà bien tard. Mais entre le moment où vous commencez à faire des dépôts de cholestérol et le moment où les complications arrivent, il se passe plusieurs dizaines d'années. C'est un processus très long. Alors, c'est plus ou moins long suivant le taux de cholestérol, suivant les gènes que l'on a. Mais en général, ça prend plusieurs années. C'est pour ça qu'on appelle ça un tueur silencieux, comme l'hypertension. Il n'y a pas de symptômes. C'est-à-dire que si vous ne faites pas mesurer votre tension ou si vous ne faites pas doser votre cholestérol, vous pouvez en avoir et ne pas le savoir.
Et c'est pour ça que régulièrement, les médecins généralistes prescrivent à leurs patients de faire justement tester ce cholestérol, même s'il n'y a pas de signe extérieur, de signe d'alerte.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut... Peut-être que tout le monde ait au moins un dosage de cholestérol, pas trop tard dans sa vie. S'il est normal, c'est pas la peine d'en refaire avant plusieurs années. Mais ça permet aussi de dépister des formes familiales d'hypercholestérolémie qui peuvent avoir des conséquences importantes. Et c'est d'autant plus important de faire ce dosage si justement dans sa famille, ses parents, on a des gens qui ont fait des complications cardiaques ou d'AVC. Le seul fait d'avoir ça dans sa famille proche doit se laisser penser que peut-être on a ce même risque. Et c'est pour ça que ces dosages sont utiles.
Alors une autre question, c'est Caroline, elle a été diagnostiquée, mais pour elle, difficile de suivre les recommandations du médecin. On écoute son message.
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'appelle de la région parisienne. Il y a de cela à peu près 3 ans, mon médecin m'a découvert du cholestérol, mais le mauvais cholestérol. Donc du coup, il m'a prescrit un traitement à suivre que je n'ai pas voulu suivre. J'ai préféré changer plutôt mon alimentation, réduire toutes les matières grasses. Il a fait un contrôle, il a vu que le taux de cholestérol avait disparu. Et il n'y a pas longtemps, il m'a refait faire un autre test et le taux de cholestérol est revenu. Et c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée, j'ai mangé n'importe comment. Donc du coup, il m'a represcrit encore un traitement à suivre. Bon, à cela s'ajoute quand même la ménopause qui est bel et bien présente. Et il y a une prise de poids également qui est là, que je n'arrive pas à maîtriser. Problème à respirer quand je marche. Quand je marche, ma fille me fait la remarque comme quoi je respire fort parce que je ne m'en rends pas compte. Que faire? Est-ce que vous avez des conseils à me prodiguer à ce sujet? Parce que je suis un petit peu perdue. Merci.
Caroline, auditrice de la région parisienne et auditrice méfiante à l'encontre des médicaments, professeur Philippe Gossel a essayé de réguler les choses par elle-même par le biais de son régime alimentaire. Elle a un taux de cholestérol qui fait un petit peu du yo-yo. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire après avoir entendu son témoignage ?
Alors, la première chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, elle est le témoin du fait que si l'on modifie son alimentation, on peut faire baisser le cholestérol. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Elle dit que le cholestérol a disparu. Il n'a pas disparu. Le niveau a baissé. Après, le niveau idéal qu'il faut atteindre, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle les autres facteurs de risque. Alors, je ne sais pas, par exemple, si elle est plutôt sédentaire, elle dit qu'elle a pris du poids, c'est le moment de la ménopause. Il y a sans doute d'autres facteurs de risque qui peuvent s'associer. Et plus il y aura de facteurs de risque, plus on voudra avoir un taux de cholestérol bas. Donc, je ne sais pas à quel niveau elle est, mais probablement, si elle est trop loin du niveau que l'on souhaite, elle aura sans doute besoin d'un traitement. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle me dit qu'elle est essoufflée maintenant à l'effort, donc je pense qu'il faut qu'elle reconsulte, parce que ça peut être le premier témoin, justement, de problèmes cardiovasculaires. Donc il faut pas tout mettre sur le dos de la prise de poids, de la ménopause. Il faut consulter.
Il faut consulter, c'est un conseil donc pour Caroline. Il y a donc plusieurs leviers d'action hein, dans le cadre de la prise en charge, on le comprend bien. On va parler aussi bien sûr des traitements, des médicaments. On reparlera de l'alimentation. Professeur Gosse, une question sur un autre facteur potentiel de risque. C'est Abigail qui se demande si le fait d'être stressé peut entraîner une augmentation du taux de cholestérol. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Non. Le stress en lui-même ne suffit pas à faire monter le cholestérol. Après, le stress peut générer des attitudes alimentaires qui sont néfastes. Quelquefois, lorsqu'on est stressé, on compense un peu en mangeant peut-être plus gras, peut-être plus sucré, et ce n'est pas forcément effectivement une bonne idée.
Il y a quand même des choses au niveau des habitudes de vie. Vous disiez tout à l'heure activité physique. Évidemment, c'est quelque chose qui peut efficacement agir contre le stress.
Ah, très clairement. De toute façon, une des raisons pour lesquelles effectivement on est confronté aujourd'hui à ces problèmes de tension artérielle, de cholestérol, de diabète, de prise de poids, c'est que malheureusement, nous avons une activité physique qui n'est pas suffisante le plus souvent. Et vraiment, l'activité physique, c'est un marqueur de notre santé. Plus on a une activité physique importante, et plus on a des chances de vivre longtemps en bonne santé.
Lutter contre la sédentarité, on l'a bien compris. Et puis la santé cardiaque, c'est de RDC que Mandelena nous a adressé ce message. Juste avant de l'écouter, on va rappeler juste hein, pour les auditeurs, pour qu'ils suivent bien et comprennent bien, le taux HDL et le taux LDL. Vous pouvez nous redire en deux mots ?
Eh bien, le taux LDL, c'est vraiment le marqueur du risque le plus important. Plus il est élevé et plus le risque est important. Le HDL, on a cru longtemps que ça protégeait du LDL, ce qui semble pas être vraiment le cas. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on regarde essentiellement, c'est pas le rapport HDL-LDL, c'est le niveau du LDL.
Et on va écouter tout de suite ce message de Mandelena.
Bonjour docteur, je me nomme Mandelena et ma question est sur le cholestérol. J'ai depuis un certain temps les pieds qui ont tellement chauffé, alors je suis allée voir un cardiologue il y a de cela quelques semaines. Parmi les examens qu'il a demandé, il y avait le cholestérol. Et mon cholestérol est à 100 mg pour 100, et ce qui fait que la valeur est en dessous de la normale. Et mon HDL est à 31 mg pour 100. Alors il m'a demandé de savoir qu'est-ce que je prenais comme huile. Je lui ai dit que je prenais l'huile de soja. Et comme j'ai toujours été attentive depuis certaines années avec ma façon de préparer, je fais en sorte de ne pas utiliser beaucoup de gras. Il m'a demandé de renforcer un peu plus sur le gras et surtout côté margarine, de prendre les margarines à teneur en matière grasse de 60%. Je suis un peu dubitatif à ce sujet-là parce que j'ai peur de trop faire monter mon cholestérol et puis après, pour qu'il redescende, ça va être encore une autre histoire. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment bien de prendre une margarine qui a plus de teneur en gras? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Merci, docteur.
Mandelena en quête de réponses et d'éclaircissements. Professeur Philippe Gosse, le médecin de cette auditrice, lui conseille donc de consommer plus de matières grasses. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous étonne?
Ah oui, totalement, oui. Ça m'étonne totalement. En fait, plus le LDL cholestérol est bas, et mieux ça vaut, d'une certaine façon.
Ouais.
Si j'ai bien compris, elle est à 1 gramme par litre, c'est bien. Mais je vois aucun intérêt à essayer de faire monter son LDL cholestérol. Ce serait une erreur.
La norme, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément au-dessus. C'est pas un taux limite.
Mais non, puisque quand on a par exemple des gens qui ont des risques cardiovasculaires importants, on va essayer de baisser beaucoup, beaucoup plus que ça leur mauvais cholestérol, leur LDL cholestérol. On essaye maintenant d'avoir des taux de cholestérol à 0,50 g par litre, et quelquefois même moins. Donc elle a la chance d'avoir spontanément simplement 1 g par litre. C'est une chance, tant mieux pour elle.
Donc mais finalement, cette question de Mandelena, elle a tout son sens, hein?
Ah, totalement, bon, totalement.
Merci de cette question, Mandelena. Pour le coup, continuez votre alimentation de la sorte, ne changez rien si ça vous correspond bien. A priori, c'est quelque chose qui est plutôt recommandé. Il y a Nancy de Brazzaville au Congo qui demande comment distinguer les bonnes des mauvaises huiles. Elle explique que sur le marché, les vendeuses expliquent que les huiles sont sans cholestérol et elle se demande s'il faut vraiment les croire.
Alors, les huiles végétales ont peu de cholestérol en général. Alors, elles sont pas toutes absolument égales. C'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à favoriser des huiles qui sont en plus plutôt riches en oméga-3. Donc, les huiles qui ont vraiment la cote, si je puis dire, c'est d'abord l'huile d'olive, parce que c'est à la base de ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Mais c'est aussi l'huile de colza, qui est beaucoup moins chère et qui est une très, très bonne huile aussi. Il y a des tas d'autres huiles tout à fait intéressantes.
Dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, on sait que les huiles communément utilisées, ça va être l'arachide, le tournesol, l'huile de palme. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'huile de palme est plutôt évitée, l'huile de coco aussi. Mais par contre, l'huile d'arachide, oui, c'est une bonne huile. Oui.
Vous dites l'huile de coco à éviter, pourtant elle est vendue dans les magasins bio ou autres magasins naturels. Comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage entre ce qu'on va dire la force du marketing et la réalité médicale?
Ben, oui, comme vous dites, la force du marketing est très importante. Alors, si vous voulez, l'huile de coco, comme l'huile de palme, d'ailleurs, ont d'autres avantages pour fabriquer un certain nombre d'aliments. Mais elles n'ont pas le meilleur profil en termes d'acides gras insaturés en particulier.
Est-ce qu'il faut varier les huiles, professeur Gosse?
Oui.
Donc, plusieurs bouteilles dans la cuisine, dans l'épicerie, et on alterne.
Surtout qu'il y a des huiles qui supportent bien, par exemple, la chaleur, la friture, et d'autres qui la supportent moins bien. Et dans ce cas-là, on va plutôt les utiliser en salade, enfin, en assaisonnement non cuit. Hein. C'est aussi ça, un des éléments de choix de l'huile.
Alors, c'est vrai que vous avez cité olive et colza. Ces deux-là ne sont pas trop, on va dire, chauffables. J'utilise une faute de français, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On ne met pas trop dans le fond de la poêle ou de la marmite. Par contre, tournesol et arachide, ça supporte tout à fait la chaleur.
Absolument.
Professeur Gosse, justement, on parle de ces changements en termes d'alimentation. Dans votre livre, vous passez en revue un certain nombre de produits, des questions simples. Est-ce qu'il faut, par exemple, limiter la consommation d'œufs?
Alors, les œufs sont assez riches en cholestérol. Donc, il y a eu un certain nombre d'avertissements sur le fait qu'il n'en fallait pas en consommer trop. Mais d'un autre côté, ils sont assez riches en acides gras insaturés, c'est une bonne chose. Et donc aujourd'hui, la tendance à dire de ne pas non plus manger forcément des œufs tous les jours, mais on peut en manger au minimum 4 par semaine sans qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes.
Voilà. Donc surtout ne pas les éliminer du régime en tout cas. Autre question cette fois-ci sur le chocolat. Là, je sais que certaines personnes vont être particulièrement intéressées. Chocolat noir et cholestérol, par exemple. Est-ce qu'il y a des vertus anti-cholestérol dans ces fameuses petites plaquettes ou pas du tout?
Non, je crois pas trop, non.
Parce
non,
que
non.
Certains l'écrivent, hein.
Oui, je sais bien, je sais bien. Le gros problème, c'est qu'on trouve effectivement pas mal de petites études faites sur un petit nombre de patients, etc. Et on ne publie que les études qui sont positives et on oublie de publier celles qui sont négatives. Il faut se méfier d'un petit peu de tout ça. On peut faire. Je pense pas que le chocolat noir en soi soit mauvais. D'ailleurs, je trouve ça excellent. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille en attendre un effet bénéfique sur notre taux de cholestérol.
C'est pas un médicament en tout cas, mais ça fait bien plaisir. On va poursuivre cet échange, professeur Goss. D'autres questions à suivre. On ira également au Cameroun pour donner la parole à l'un de vos confrères. Ce sera juste après Soumpa avec toute Mirlate.
Manchmal wünsch ich mir, du rufst mich an. Nicht, wenn ich was brauch. Nicht, wenn du was hast, was dir nicht gefällt. Bin groß geworden ohne dich. Nicht mit deiner Kraft. Mama war stark. Manchmal sitz ich da, versetze mich hinein. Fühle diesen Pain. Was für eine Qual. Inneres Geschrei. Du liest die ganz allein. Mit vier Kindern am Bein. Wie stark muss man sein? Ja, manchmal fällt's mir ein. Hab's vor Augen, wie es einmal war. War's dir egal und tut es dir nicht leid. Vermisst du nicht die Kinder, die wir waren? Ist es dir egal? Sag, es tut mir leid. Hab's vor Augen, wie es einmal war. War's dir egal und tut es dir nicht leid. Vermisst du nicht die Kinder, die wir waren? Ist es dir egal? Sag, es tut mir leid, all die Väter an dem Spielfeld dran. Mama mittendrin, mit dem letzten Schritt durch Städte fahren. Alles für das Kind. Doch Mama wollte keine Tränen weinen. Du liest sie einfach ganz allein. In einem Meer, obwohl du weißt, dass sie nicht schwimmen kann. Sie hat's gelernt, hat mir gelernt, ein guter Mann zu sein. Es fällt mir schwer, dich nicht zu lieben, doch ich komm nun mal von dir. Du bist ein Teil von mir. Ja, manchmal fällt's mir ein. Hab's vor Augen, wie es einmal war. War's dir egal und tut es dir nicht leid. Vermisst du nicht die Kinder, die wir waren? Ist es dir egal? Sag, es tut mir leid. Hab's vor Augen, wie es einmal war. War's dir egal und tut es dir nicht leid. Vermisst du nicht die Kinder, die wir waren? Ist es dir egal? Sag, es tut mir leid. Sag's und ich werde verzeihen.
Priorité santé sur RFI. Nous parlons du cholestérol. Qu'est-ce qui est recommandé en termes d'alimentation, en termes d'habitude, d'activité physique? Quels traitements peuvent être efficaces? En ligne de Bordeaux, nous sommes toujours en compagnie du professeur Philippe Goss, chef du service de cardiologie hypertension artérielle à l'hôpital Saint-André, auteur du livre publié aux éditions Marabout, Halte au cholestérol. On a ces deux messages Facebook, professeur, des auditeurs en RDC pour reprendre notre échange. D'abord, Joël de Kinshasa qui demande quelles sont les mesures de prévention pour éviter l'excès de cholestérol, un sujet déjà largement évoqué en première partie. Et puis, Georges Ernest, cette fois de Lubumbashi, qui demande comment faire diminuer le taux de cholestérol dans notre corps. On va au labo, on revient avec un taux de cholestérol important. Qu'est-ce que va préconiser le médecin, professeur ?
Alors, il va tenir compte non seulement du taux de cholestérol, mais aussi de ce qu'on appelle les facteurs de risque. Il va estimer un petit peu votre risque de faire un jour une complication vasculaire. Et en fonction de ça, eh bien, il peut être amené à prescrire un médicament s'il estime que justement les mesures diététiques ne suffiront pas. Et le traitement qui est aujourd'hui le plus utilisé en première intention, c'est ce qu'on appelle les statines.
Et justement, est-ce qu'il y a des contre-indications? Les statines, on en entend parler. Ce sont des molécules qui sont utilisées depuis longtemps ou c'est quelque chose d'assez récent comme traitement?
Alors, tout est relatif. Enfin, on les a quand même depuis plus de 40 ans. C'est un médicament efficace, utile. C'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires, comme d'ailleurs tous les médicaments efficaces. Ces effets secondaires sont parfaitement connus du médecin. Ils peuvent être surveillés, ils peuvent être dépistés, diagnostiqués si effectivement il y a ce type d'inconvénients. Ce sont surtout des douleurs musculaires. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a des douleurs musculaires et qu'on est sous statine, c'est forcément la statine. C'est ça un petit peu la difficulté, parce qu'on peut, tout le monde peut avoir des douleurs musculaires pour telle ou telle raison. Mais il y a un test assez simple, un dosage dans le sang qui permet de savoir si c'est vraiment la statine qui est responsable. Et si c'est la statine qui est responsable, il faut aller vers un autre médicament. Mais c'est quand même la statine, les statines, il y en a plusieurs, qui sont aujourd'hui le traitement le plus efficace en première intention.
Et au long cours, j'imagine.
Et au long cours, bien sûr, oui. Le problème, c'est qu'effectivement, souvent, on commence ce genre de traitement et est obligé de le poursuivre longtemps, justement, pour éviter les complications.
Oui. Et encore un message à faire passer aux auditeurs. Si ça s'améliore après un certain temps, après avoir pris ce traitement, n'arrêtez pas, parce que justement, il a vocation à être pris au long cours.
Absolument. Dès qu'on l'arrête, le taux de cholestérol remonte. C'est malheureusement... À chaque fois le cas, oui.
Est-ce qu'il peut arriver que le médecin prescrive plusieurs médicaments en même temps dans le cadre de cette prise en charge du cholestérol, professeur Philippe Gosse ?
Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a un niveau de cholestérol très élevé, et surtout s'il y a un niveau de risque cardiovasculaire qu'on peut calculer sur son âge, sur son sexe, sur le fait qu'il est, par exemple, il fume, il a de la tension, il a du diabète, enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qu'il faut examiner, à ce moment-là, on peut être amené à mettre en place des associations. Et il y a d'ailleurs des associations qui sont dans le même cachet. On n'a pas besoin de prendre deux cachets, c'est dans le même cachet qu'on a souvent une association en particulier entre une statine et un autre médicament qui s'appelle les l'ezetimibe. Et c'est aujourd'hui un type de traitement qu'on utilise assez souvent chez les patients à risque.
Et est-ce que cette prescription, elle va être forcément toujours associée à des conseils en termes d'hygiène de vie ? En gros, c'est terminé, l'ordonnance, au revoir madame et à la prochaine fois.
Ah non, les modifications du mode de vie sont aussi importantes. Elles sont souvent pas suffisantes, elles sont souvent difficiles aussi à accepter, mais elles jouent sur le risque dans son ensemble. Si par exemple vous mangez moins salé, votre tension va être un peu plus basse et ça joue aussi sur le risque. Si vous perdez du poids, c'est aussi important. Si vous reprenez une activité physique, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous faire du bien et qui pour le coup n'ont pas d'effet secondaire.
Une autre question, un message de Louisette de Kinshasa, on l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, c'est Louisette depuis Kinshasa. J'aimerais savoir, est-ce que la cholestérol n'est qu'en grande quantité chez les personnes qui sont grasses, ou on peut aussi trouver de la cholestérol chez les personnes qui sont minces? Merci beaucoup.
Le critère du surpoids, professeur Gosse, est-ce que c'est une condition obligatoire, une condition suffisante ou pas forcément une condition?
Non, c'est une bonne question, parce que justement, ouais, on peut être maigre et avoir beaucoup trop de cholestérol. Et on peut être gros et avoir un cholestérol tout à fait normal. C'est deux choses différentes. Alors c'est vrai que si en plus on a du surpoids, c'est un facteur de risque qui se rajoute, si vous voulez, au cholestérol. Mais il faut absolument pas considérer que parce qu'on est maigre, on n'a pas de cholestérol, ou parce qu'on est gros, on en aura forcément. C'est deux choses différentes.
Différentes à discuter avec son médecin. Et on va partir maintenant pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Et en ligne avec nous, le docteur Jérôme Boumbi. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé. Comment est-ce que la plupart des patients dans votre contexte découvrent-ils qu'ils ont justement un excès de cholestérol ?
Merci Caroline. Comme vous le savez, le cholestérol n'est pas vraiment un motif de consultation, parce que c'est une anomalie biochimique. Donc ce sont les médecins, quand ils font les dépistages chez des patients qui présentent d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, on se rend compte que le taux de mauvais cholestérol est élevé. Sur le plan factuel, dans un travail conduit à l'hôpital général de Yaoundé, avec nos maîtres, les professeurs King et Menanga, nous nous sommes rendus compte en 2019 que 65% des patients qui viennent en consultation externe de cardiologie présentent un taux de mauvais cholestérol élevé. Donc, c'est un motif de consultation ou un problème de santé fréquent chez nous.
Et est-ce que quand vous dites cholestérol aux patients, docteur Boumbi, ils savent de quoi il s'agit ?
Dans l'autre contexte, difficilement, mais il nous revient en tant que praticiens d'éclairer la lanterne de nos patients sur ce sujet en leur donnant des explications avec des exemples concrets. Il faudra par exemple leur dire que le mauvais cholestérol, c'est celui qui amasse les déchets pour les déposer sur la paroi des artères et favoriser ainsi les maladies cardiovasculaires telles que la crise cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, tandis que le bon cholestérol lui fait l'inverse, il ramène ces déchets de la paroi des artères vers le foie qui va se charger de les éliminer. Et donner des exemples qui permettent aux patients de savoir quel aliment éviter et quel type d'aliment privilégier.
On va parler justement de cette question du régime alimentaire. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout se mettre au régime, mais c'est bien qu'est-ce qu'on a comme habitude dans son alimentation. Mais en termes de traitement, tout à l'heure avec le professeur Philippe Gosse, on a parlé des statines. Est-ce que ces médicaments sont non seulement disponibles, mais aussi accessibles pour vos patients? Là, je parle du porte-monnaie quand on vit au Cameroun.
Avant ce sujet, permettez-moi de dire rapidement que des aliments riches en mauvais cholestérol se trouveront dans ce qu'on appelle le mauvais gras, la margarine, le beurre, les produits laitiers gras, qu'il faudra éviter ou prendre de façon réduite. Tandis que les aliments tels que les huiles d'assaisonnement, olives, huile de soja, l'avocat, les fruits de mer sont des éléments qui permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol. Quant aux médicaments qui abaissent le taux de mauvais cholestérol, la plupart des classes pharmacologiques sont disponibles chez nous, les statines, les fibrates, les étimides. Les classes plus récentes, telles que les inhibiteurs de PCSK9, sont beaucoup moins disponibles, mais peuvent être commandées directement quand c'est nécessaire. Mais cependant, la classe qui est la plus utilisée et qui est efficace pour baisser le cholestérol, les statines sont largement disponibles et assez accessible dans notre milieu.
Vous dites assez accessible. Est-ce que pour autant, quand vous en prescrivez, vous constatez qu'après un petit laps de temps, eh bien, certains patients arrêtent parce qu'ils considèrent que leur taux de cholestérol est revenu à un taux normal?
Là également, c'est l'éducation qui doit permettre à nos patients de comprendre que c'est des médicaments qu'il ne faut pas arrêter. On fait une évaluation à 3 mois pour savoir si on a atteint les objectifs de baisse de mauvais cholestérol qui dépendent des autres facteurs de risque des patients. Et insister sur l'éducation qu'il est important d'y associer les mesures d'hygiène de vie et parfois ne serait-ce qu'une petite dose d'entretien de statine pour pouvoir maintenir ce taux normal afin d'éviter les complications cardiovasculaires.
Et en termes de contrôle de fréquence des analyses sanguines, qu'est-ce que vous préconisez?
Après avoir mis un patient sous médicaments qui baissent le mauvais cholestérol, le premier contrôle est en général prévu à 3 mois. Si à 3 mois, nous avons atteint les objectifs, nous pouvons maintenir la dose ou passer à une dose d'entretien et faire un contrôle suivant à 3 mois pour savoir si le patient reste stable. À ce moment, le contrôle est annuel chez le patient stable.
D'accord.
Une fois par an.
Tout à l'heure, vous disiez, effectivement, on donne des conseils en termes de choix des produits quand on va au marché, ce qu'on met dans sa cuisine. Est-ce que ces recommandations sont plutôt bien acceptées et très importantes, surtout acceptées au long cours, parce qu'il faut bien maintenir cette hygiène alimentaire au long cours?
Comme pour la plupart des maladies chroniques, l'observance est un véritable problème chez les patients à travers le monde, et plus particulièrement chez nous en Afrique subsaharienne, où la couverture santé universelle n'est pas encore disponible dans la plupart des pays. Donc, à ce moment, une fois de plus, c'est l'éducation et l'éducation encore, pour que les patients restent le plus longtemps observants.
Il y a des auditeurs qui ont posé un petit peu en toile de fond cette question. Est-ce que beaucoup de vos patients présentent de front plusieurs problèmes, cholestérol, hypertension artérielle, surpoids? Est-ce qu'il y a des comorbidités fréquentes?
Malheureusement, c'est très souvent le cas. Les patients cardiovasculaires sont des patients qui cumulent plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle, dont la prévalence chez nous est de 33%, le diabète, dont la prévalence dépasse les 10% au Cameroun, l'obésité, les anomalies du cholestérol. Cette constellation de facteurs de risque favorise la survenue des complications que nous observons fréquemment, telles que les accidents vasculaires cérébraux et de façon régulière actuellement, les crises cardiaques également.
Ce qu'il faut dire donc aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, docteur Jérôme Boumbi, c'est que tous ces conseils en termes d'alimentation, d'activité physique, c'est bon pour le cholestérol, mais c'est bon aussi pour l'hypertension artérielle, le diabète et le surpoids.
Absolument.
Et donc, bougez-vous et mangez mieux, c'est ça?
Tout à fait.
Merci beaucoup, docteur Boumbi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous parliez tout à l'heure, professeur Philippe Gosse, d'affections, de maladies qui surviennent en termes de changements. Alors, on est remonté très, très loin dans l'histoire de l'humanité, chasseurs-cueilleurs, mais aussi, hein, simplement, quand on change de rythme de vie. On a vécu pendant des dizaines d'années, on va dire, en milieu rural. On vient en ville, on change d'alimentation, on bouge beaucoup moins. Forcément, le corps en ressent les effets négatifs.
C'est très clair, c'est très très clair. Et la crainte que nous avons, c'est de voir que cette diminution en particulier de l'activité physique avec une alimentation trop riche est de plus en plus le cas chez nos enfants. C'est une inquiétude extrêmement importante, parce qu'on voit de plus en plus souvent maintenant justement des jeunes qui ont de l'hypertension, qui ont du cholestérol, etc. Et ce qui présage malheureusement une augmentation encore des maladies cardiovasculaires dans quelques années.
Est-ce qu'on a vu aussi ces fameuses comorbidités dont tout le monde s'est un petit peu familiarisé avec ce terme plutôt médical jusque-là, au moment du Covid? C'est vrai que quand on a de l'hypertension, quand on est en surpoids, on est forcément, professeur Philippe Gosse, plus vulnérable à l'ensemble des maladies.
Bien sûr, bien sûr. On diminue nos capacités à nous défendre contre les autres agressions, et en particulier virales ou bactériennes. Oui.
Alors un dernier point, j'en ai parlé brièvement en début d'émission. C'est vrai que ce cholestérol, c'est devenu pour un certain nombre de marques du secteur agro-industriel un argument de vente, de marketing. On voit parfois, et même souvent, sans cholestérol, y compris sur des aliments assez saugrenus comme le jus d'orange. Pour vous, professeur, parce que forcément, on va le dire, hein, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas de cholestérol dans les oranges, tout simplement.
Hein.
Voilà. Alors, il n'y a pas de gluten non plus dans les oranges, donc c'est sans gluten aussi. Pour vous, professeur Philippe Gosse, le cardiologue, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas vraiment que le marketing s'empare de cette question de santé?
Alors, de toute façon, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose, mais pourquoi pas, je veux dire, si les messages sont relativement adaptés. Bon, là, vous citez une caricature, et malheureusement, il y a des caricatures dans la publicité, bien réelles. Mais que les industriels cherchent à modifier un peu leur produits, et je parle surtout des produits composés, là où il y a plusieurs aliments, etc. On est dans une civilisation où on mange de plus en plus de produits tout préparés, où on cuisine de moins en moins à la maison. Donc qu'il y ait un effort fait par l'industrie pour justement limiter les éléments importants, et qui par ailleurs d'ailleurs des applications par exemple sur téléphone qui nous permettent de savoir justement quelle est la composition et l'intérêt de tel ou tel produit, me paraît absolument indispensable. Des choses comme le Nutri-Score aussi.
Ouais, ça va voilà. Plutôt dans le sens de l'information, et c'est très important à développer. On vous remercie beaucoup. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur Gosse. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Marabout, Halte au cholestérol.
Priorité santé sur RFI.
Le projet d'agence africaine de médicaments, des annonces, mais une initiative qui reste encore à concrétiser. Initiative pour lutter contre ce fléau des faux médicaments. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Alfred Sandouidi. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes pharmacien, président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Docteur, votre pays, le Burkina, s'est doté d'une agence du médicament, donc au niveau national. Il s'agit donc maintenant, pour demain, de s'appuyer sur une structure régionale avec ce projet d'agence africaine. Où en est précisément ce projet au niveau de l'Union africaine?
Ok, je vous remercie pour l'invitation à prendre part à cette émission. Et j'indique également que je suis le secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international. Mmh. Et c'est peut-être même plus à ce titre que j'interviens dans cette émission. Mmh. C'est vrai que la création de l'Agence africaine du médicament était devenue un impératif. Parce que le constat sur le terrain montre que la prolifération des médicaments falsifiés Et les faux médicaments dans nos pays constituent déjà un problème de santé publique, un problème économique dans le pays avec des dégâts pour la santé de nos populations. Maintenant, au niveau de notre pays, nous avons adopté et créé l'agence du médicament. Chez nous, c'est une autorité nationale de régulation pharmaceutique et qui s'inspire de la loi type de l'Union africaine et dans les autres pays de la sous-région également. Je sais déjà que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali l'ont adopté. Il y a d'autres qui sont dans la dynamique de l'adoption pour qu'au niveau de l'Agence africaine du médicament, nous puissions avoir un cadre réglementaire organisant le secteur pharmaceutique harmonisé et renforcé pour lutter efficacement contre le trafic des médicaments falsifiés.
Au niveau du Burkina Faso aujourd'hui, docteur, est-ce que la législation, est-ce que votre pays a vraiment les outils pour contrer ce trafic ?
Oui, nous avons aujourd'hui, bien entendu, le cadre réglementaire organisant le secteur pharmaceutique. Pour dire, on peut être fier de notre cadre réglementaire, hein, qui quand même organise, bien entendu, la fabrication des médicaments, la dispensation, la distribution. Et à tous les niveaux, vous avez des professionnels. Nous avons au niveau de l'agence du médicament plus de 40 pharmaciens qui travaillent à mettre en œuvre cette réglementation-là.
Et malgré tout, docteur, je vous interromps, excusez-moi, est-ce que vous avez des idées sur la proportion de faux médicaments qui circulent aujourd'hui dans un pays comme le Burkina Faso ?
Dans notre pays, il y a une étude qui a été réalisée autour des années 2000, bon, pas trop récente, qui montrait que 10% des médicaments qui circulaient dans notre pays étaient des faux médicaments. Mais nous savons qu'au-delà, l'OMS parle de plus de 50% dans certains pays.
Oui.
Donc, au Burkina, on en parlait, mais depuis un certain temps, il y a une recrudescence du trafic des faux médicaments dans notre pays. Et certainement qu'il faut encore refaire une étude pour faire l'état des lieux.
Il faut un nouvel état des lieux plus récent. Il y a évidemment le côté de la lutte, de la répression. Il y a le contrôle, il y a la production sur place, il y a le développement des génériques, il y a aussi la sensibilisation. Le message à faire passer auprès des populations, est-ce qu'il passe bien aujourd'hui, ce message, auprès des Burkinabés? Est-ce que les gens ont vraiment conscience des enjeux de santé?
Oui, ils ont conscience de cela. Vous savez, dans notre pays, ceux qui s'adonnent au trafic de médicaments, la rue, j'utilise des manœuvres extraordinaires pour pouvoir vendre ces médicaments. Ils vendent des mérites incroyables qui n'existent pas pour ces produits. Et c'est toujours les populations aux revenus faibles qui y vont parce que, bon, ils n'ont pas les moyens pour aller dans les formations sanitaires publiques.
Donc,
la nécessité, comme vous l'avez dit tantôt, la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle, ouais, qui est à ses débuts dans notre pays. Et je pense que c'est sa mise en œuvre qui va permettre aux populations d'aller librement dans les formations sanitaires sans avoir cette angoisse de dire que je n'aurai pas suffisamment de moyens.
Pour payer mes médicaments, on l'a bien compris. Merci beaucoup, docteur Sandaoui. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Ouagadougou. Et merci à toute l'équipe, à Setoussama Kéophile, la scène, Victor Hull, Raphaël Lazizi. Demain, on va parler de la santé des reins, en particulier de la prévention et du traitement des calculs rénaux. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.